Tendance d'aujourd'hui et de demain.
Tendance d'aujourd'hui et de demain, le regard de Radio Intégration sur les dimensions spatio-temporelles auxquelles s'attachent les réalités économiques d'Afrique centrale. Tendance d'aujourd'hui et de demain.
Une réflexion sur la nature et la portée des interactions, les conditions de leur efficacité, ainsi que les défis qu'elles soulèvent dans la sous-région.
Tendance d'aujourd'hui et de demain.
C'est votre émission sur les prévisions, planification des ressources, telles qu'élaborées par les grands et petits acteurs. 52 minutes pour exposer et comprendre les environnements où s'opèrent les choix décisionnels qui engagent l'Afrique centrale.
Tendance d'aujourd'hui et de demain, c'est sur Radio Intégration.
Suivez Radio Intégration sur Facebook,
X,
Instagram,
YouTube.
Tendance d'aujourd'hui et de demain, les grands tableaux.
Madame, bonjour, monsieur, salut. Un nouveau jour, une nouvelle édition de Tendance d'aujourd'hui et de demain, c'est sur Radio Intégration. Tendance d'aujourd'hui et de demain, c'est l'immersion dans des reportages, des sons, des ambiances qui nous conduisent à deux pas ou à l'autre bout des systèmes d'échange, l'interconnexion des marchés, des choses matérielles et des services immatériels. Tendance d'aujourd'hui et de demain, l'émission éclaire les trajectoires des acteurs, elle s'intéresse aux évolutions possibles de l'Afrique centrale, dans un cadre régi par le principe de contingence et de variété. Tendance d'aujourd'hui et de demain, édition de ce jour, c'est avec des voix que vous connaissez. Il s'agit de Joël Effa. Bonjour Joël.
Bonjour Jean-René Meva.
Monsieur Josué Nabral à la technique. Petite arithmétique Joël.
Oui, Jean-René, cela fait bien trois personnes pour Tendance d'aujourd'hui et de demain de ce jour. Et puis, ne l'oubliez pas, c'est 52 minutes d'antenne pour parler des enjeux de compétitivité, de création ou de captation des savoirs et des compétences en Afrique centrale.
Votre énoncé nous permet de dérouler le menu de cette édition.
Tendance d'aujourd'hui et de demain, c'est trois grands moments. Les grands tableaux. C'est le premier et dans cette rubrique, on parlera du Cameroun désigné principal vecteur de l'inflation dans la zone CEMAC-Balabéac. Nous irons ensuite au Gabon où, selon le FMI, la situation économique est alarmante. Nous ferons un tour au Tchad où de plus en plus l'on insiste sur le rôle du capital humain dans le développement économique. En seconde partie de l'émission intitulée « Grande surface », on fera une descente dans les marchés au SAFU. Les prunes, si vous préférez. L'espace est consacré au renseignement sur les tendances des prix, de cuisson et de consommation en cette saison. Enfin, une troisième partie, l'invité. Sur le fauteuil, il y aura Monsieur Yvon Sana Bangui. Il est gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, en abrégé BEAC. Le Centrafricain était face à la presse sous-régionale le 24 juin dernier. À cette occasion, il a donné des explications sur le phénomène de la fausse monnaie, l'injection des liquidités dans les banques, le franc CFA et bien d'autres. Tendance d'aujourd'hui et de demain, les grands tableaux.
Hausse des prix avec 52% de la consommation, le Cameroun est le principal vecteur de l'inflation dans la zone CEMAC. Selon le rapport de la politique monétaire de la Banque des États de l'Afrique centrale, publié le 24 juin 2024 à Yaoundé, la Banque centrale des six États de la CEMAC, le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Tchad et la République centrafricaine, eh bien, le Cameroun pèse 52% dans la consommation totale de cet espace communautaire.
De ce fait, ce pays qui abrite aussi 40% du tissu industriel de la communauté porte la dynamique des prix dans la sous-région, souligne le rapport de la BEAC. À ce titre, avec un taux d'inflation qui s'est établi à 6,6% au premier trimestre 2024, le Cameroun a contribué à 57 points, soit 65,2 points à la fin décembre 2023, à l'inflation au sein de la communauté qui est ressortie à 4,5% au cours de la période, contre 4,8% à fin décembre 2023, après une accélération à 4,6% en février 2024, suite à la hausse des prix à la pompe décidée en février 2024 par les autorités au Cameroun et au Tchad, indique le rapport de la Banque centrale. Comme vecteur principal de la dynamique des prix dans la zone CEMAC à fin mars 2024, le Cameroun est suivi par le Tchad, soit 20,4 points contre 14,9 points à fin décembre 2023. Le Congo, quant à lui, il vient avec 9,1 points contre 10,2 points. La Guinée équatoriale, 4,8 points contre 4,2 points. Le Gabon, 3,6 points après 4,0 points. Et la République centrafricaine, 0,0 points après 1,6 points. L'on observe dans le rapport de la BEAC qu'alors que la proportion de la contribution à l'inflation a reculé dans 5 pays de la CEMAC, celle-ci a plutôt augmenté en Guinée équatoriale, passant de 4,2 points à fin décembre 2023 à 4,8 points à fin mars 2023.
Au Gabon, un rapport du FMI parle d'une situation économique alarmante. Depuis 2022, c'est le premier rapport du Fonds monétaire international pour le Gabon qui avait volontairement suspendu l'application de son accord avec l'institution pour la période 2021-2024. Le rapport a étudié l'évolution des performances économiques du Gabon des années 1970-1980 jusqu'à aujourd'hui. Et la situation est mauvaise, semble-t-il, Joëlefa.
Oui, selon le rapport du FMI, le Gabon reste un pays à revenus intermédiaires, mais ses populations s'enfoncent dans la pauvreté. On s'est rendu compte qu'il y a eu un recul du niveau de revenus. Pour vous donner un exemple, au Gabon, si un habitant en moyenne gagnait 100 000 francs CFA en 1990, aujourd'hui, ce même habitant gagne à peine 80 000 francs CFA, détaille Gomez Agou, représentant du FMI. Ce recul de revenus s'est accompagné de deux éléments importants au Gabon. L'accroissement du chômage et l'accroissement de la pauvreté. Le chômage, aujourd'hui, est autour de 35 à 40% au sein de la population en âge de travailler. Et la pauvreté, c'est un Gabonais sur trois qui est pauvre. Autre indicateur négatif, le taux d'endettement qui dépasse le seuil de 70% du PIB fixé par la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, en abrégé CEMAC. Nous avons donc regardé la situation de la dette du Gabon qui, aujourd'hui, se situe en 2023 à 70,5% du PIB. Donc, c'est un taux d'endettement très important. Selon Gomez Agou, la situation pourrait empirer. Si le rythme d'endettement avant le 30 août 2023 se poursuit dans les années à venir, la dette du Gabon pourrait atteindre dans les 4 ans ou 5 ans 100% du PIB. Pour corriger cette situation, le FMI formule plusieurs recommandations. Il demande notamment plus de transparence dans la gestion des ressources pétrolières et minières. C'est l'heure de rétablir toute la transparence, poursuit Gomez Agou. Il faut publier, par exemple, les contrats de pétrole et les contrats miniers. Il faut s'assurer qu'il y a un audit du secteur, collecter l'impôt et les droits de douane et réduire le rythme des dépenses de l'État. Volonté de maîtrise des déficits. Lors d'une cérémonie conjointe avec le FMI, le ministre de l'économie, Maïs Mouissi, a fourni quelques explications. Notamment, Nous continuons notre stratégie avec la volonté de faire en sorte que notre pays maîtrise ses déficits, maîtrise l'inflation et maîtrise son endettement. Le ministre de l'Économie poursuit, ce que le FMI demande, c'est d'être déjà plus transparent sur les recettes pétrolières et minières. C'est la raison pour laquelle il y a toute une réflexion sur le volet contractuel pour voir comment nous pouvons rendre publics les contrats liés à ce domaine.
Le FMI félicite le gouvernement de transition pour avoir volontairement mis à sa disposition, en toute transparence, la documentation nécessaire à l'élaboration de ce rapport. Le FMI souhaite que Libreville s'active à appliquer ses recommandations.
Manu Dibango. Manu Dibango. Par Diouf. Par Diouf du Sénégal. Vous perdez votre temps à tuer quelque chose qui va mourir. Vous perdez votre temps. Ouais, Manu Dibango, oui. Le diable et ses cobayes. Les baobas sont tombés. Toute l'Afrique pleure. La solitude. Quelle perte. Pap Diouf, n'y a Sénégalais. Ayouro. Manu, ce n'est pas toi qui devais mourir de cette façon. Si tu étais ministre dans ton pays, tu ne serais pas mort de cette manière à cause de nos lâchetés. Manu.
Au Tchad, l'on insiste sur le rôle du capital humain dans le développement économique. Une conférence débat sur le thème « Le rôle du capital humain dans le développement économique » a eu lieu le 4 juillet 2024 dans les locaux de l'École nationale d'administration en N'Djamena. La conférence a été animée par Abbas Mahamat Touli, ancien gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC, et candidat du Tchad, la CEMAC, pour le groupe de la Banque africaine de développement.
Tout d'abord, le conférencier Abbas Mahamat Touli a expliqué au public le contour de l'intitulé du thème. La théorie du capital humain a été formalisée dans les années 1960 grâce aux travaux de Theodor Scholz et Gary Becker. Il représente la dimension qualitative du facteur de production de travail. Ensuite, il a précisé que l'indice de développement humain varie de 0 à 1. Un pays dans lequel un enfant né aujourd'hui peut espérer jouir d'une santé optimale et bénéficier d'une éducation complète. L'ancien gouverneur de la BEAC, Abbas Touli, a rappelé qu'en zone CEMAC, le niveau de l'indice du capital humain varie entre 0,29 en RCA et 0,46 au Gabon. En dehors de la RCA et du Tchad, les pays membres de la CEAC atteignent un niveau de capital humain équivalent à celui de la moyenne de l'Afrique subsaharienne, soit 0,40. Il a poursuivi que les divers indicateurs utilisés pour mesurer le niveau du capital humain dans un pays démontrent tous que les pays africains en général, et ceux de la CEAC en particulier, enregistrent un déficit important en la matière. Au niveau tchadien, le conférencier estime que le système éducatif actuel est en désaccord avec les exigences de l'ère. À quoi sert de former tout le monde en rabais par faute de moyens? Ne faut-il pas également examiner l'opportunité au moins de former une partie des Tchadiens, mais de la bonne façon en créant des écoles d'excellence, a-t-il préconisé. Il ajoute que dans le renforcement du capital humain, le rôle des écoles privées est primordial. On voit des écoles privées qui naissent un peu partout. Quelle est leur qualité? Est-ce qu'il y a des normes que les pouvoirs politiques ont définies? Est-ce qu'il y a des mécanismes sur la qualité d'enseignement? S'est interrogé Abbas Mahamat Touli.
Il faudrait l'espacement des naissances, par exemple. Le planning familial, c'est quelque chose que Dieu n'a pas interdit.
We'll be right back.
tendance d'aujourd'hui et de demain, les grandes surfaces.
La saison du safou bat actuellement son plein au Cameroun. Notamment dans les régions du Grand Sud, ces fruits charnus représentent une source de revenus pour les familles qui les revendent aux vacanciers, activités qui leur rapportent ou alors qui leur permettent de faire quelques économies.
Actuellement, dans la ville de Yaoundé, tous les marchés sont inondés de ce fruit charnu qui fait la fierté des consommateurs. Les prix varient selon la grosseur et surtout du lieu de provenance du produit, comme le témoigne cette vendeuse rencontrée au marché de Mokolo dans le deuxième arrondissement de la capitale politique. Les safous sont très prisés dans le pays et leur saison permet à ce que les populations se font de petites économies, tant pour les petits commerçants que pour les familles qui réduisent leurs dépenses quotidiennes pour la nutrition des enfants vacanciers. Marché au safou, écoutons quelques vendeurs et consommateurs rencontrés à Yaoundé.
La prune, c'est la grosse prune, comme je l'ai dit, c'est la meilleure et elle n'a pas un gros noyau. Or, la petite prune, le noyau est plein et c'est pas la bonne. Donc, la chair est petite. Contrairement à la grosse qui a un petit noyau et a une bonne chair. Et c'est elle qui est bien à consommer.
Moi, je me dis, les prunes qui sont un peu, qui ont la couleur vert citron, la couleur verte, pour moi, ce sont les bonnes prunes. Généralement, quand j'achète ce genre de prunes, en général, si j'achète deux fois, je vais tomber sur la bonne prune. Mais les prunes qui sont rouges, pour moi, elles sont très acides.
C'est un débrouillard, il fait dans tout ce qu'il voit. C'est un jongleur. Au début, il faisait dans l'agriculture. Bon. Il n'était pas toujours facile, mais je me suis retrouvé maintenant à Yaoundé. Et à Yaoundé, maintenant, je me suis lancé plutôt dans les fruits de saison. Et vend tout en toute saison. J'ai économisé et paie mon loyer, non? Et j'ai économisé le reste pour mon projet. De pouvoir me lancer dans mon agriculture que je veux, il y a un projet de le faire.
Les difficultés.
Et parfois, avoir ne nous laisse pas. Le premier problème, avoir à dehors. Donc quand on fait comme ça là, parfois ils viennent là nous chasser. Il y a un client qui vient là. Par exemple, tu tasses une prune, tu dis à un client que les prunes sont sans feuilles, tu dis qu'il a 5 ans. L'autre t'insulte même seulement que c'est versé au marché. Les prunes sont versées dehors, tu vends quoi à 100 francs, mais on les comprend aussi, on passe 100 francs.
Tu es bien fatigué, mais problème de santé, tout ça là. Quand tu rentres le soir, le pied fait mal.
Et il pousse. Doucement, jusqu'à la fin de la soirée, je rentre. Tout ce que j'ai à faire, je me lave, je prends mon petit repas et me couche et dors.
Ce qui me fait acheter les prunes, c'est d'abord un bon fruit à manger. Pendant la période des prunes, ça nous empêche à ne pas trop acheter des choses comme la viande, des moments que c'est le plus que les enfants peuvent manger. Ça fait en sorte que tu économises ce qui est d'abord là pour le soir ou bien toute une journée. J'ai d'abord acheté là-bas pour 500, j'ai acheté pour 300 là-bas. Et ici, là, maintenant, j'ai acheté pour 600. Les enfants seront très contents de leur grand-mère et de leur maman.
J'aime la prune. J'aime manger ça sans compliment. C'est très bon, c'est pas acide. Quand il est acide, c'est pas bon. Donc, c'est bizarre dans la bouche. Donc, c'est bien de manger avec le pain quand c'est acide.
On achète ici sur place. Ça vient du village. L'année, il y a tellement les prunes. Et ça ne passe pas au marché. Et lorsque je prends un panier, on peut prendre même 3 jours, 4 jours. Un panier de cajou, même ça ne finit pas. L'année passée, on pouvait vendre même une journée.
Il y a les 15 000, 10 000, 5 000, ça dépend. Moi, je vends la bonne prune parce que moi, je mange ça à la maison. La prune, bon. Il y a certains qui préparent ça, on bouge ça. Il y a certains qui frisent ça avec lui. Dans la marmite. Il y a certaines personnes qui font ça dans le feu de bois. Avec le charbon, on braise ça avec le charbon. La meilleure manière, c'est de braiser avec le charbon. Ça se marie avec un peu de tout, le manioc, le plantain.
Il y a d'autres qui partent en France, Belgique, le Congo, le Gabon, l'Andiné. Notre prune du Cameroun, c'est une bonne prune. Oui, surtout la prune du centre, c'est ça qui voyage. C'est une prune qu'on ne met pas les produits sur ça. Ça grandit On cueille seulement, donc elle est naturelle. Alors qu'ailleurs, les autres utilisaient les produits chimiques. La prune se vend en kilo comme ici. On prend ça en kilo à quelque chose de 1100 francs à 1200. Et ici, la prune du Gabon, on ne part pas en kilo, ici à Yaoundé. Ça voyage au contraire en filet. Donc on te demande de faire les gros filets, un filet qui parle à quelque chose de 40 à 45 000.
Tu achètes le colis de prune, tu classes au sort, tu ne parviens pas à vendre. Si j'achète par exemple le colis de prune à 35 000, minimum ce qu'elle a su, elle ne peut pas manquer mes 15 000 dedans. La prune commence à partir de 100 francs, 150 même, quand c'est la grosse prune, les débuts, et 50. Donc c'est facile d'acheter et briser pour vendre.
La prune ne peut pas passer sans plantain. Quand tu n'as pas le plantain, ça ne passe pas bien. Les difficultés, c'est quand on change comme ça dans le plateau. Il y a d'autres clients, quand tu vois, ils disent que la prune c'est 100 francs, ils discutent 50, 50, des fois 300. Et il y a même d'autres clients même qui prennent même, ils ne donnent pas l'argent. Quand tu as demandé l'argent, ils commencent à faire des problèmes. On laisse seulement. Et quand ça se refroidit comme ça, là, donc tu ne peux plus vendre ça au prix quand c'était encore chaud. Tu vends à 50, 300. Et donc, c'est un peu compliqué. Donc, les clients disent que non, la prune est acide, la prune est trop chère. Et quand nous achetons d'abord la prune chère.
Elle s'est battue, son bonheur c'était de nous voir grandir et plus tard devenir des hommes. Même son sourire et son regard ne sont plus les mêmes quand j'avais 15 ans. Tout a changé en si peu de temps. Des jours et des mois se sont écoulés, des années ont passé, elle a vieilli. Je me souviens très bien, longeant les sentiers du village, elle me disait, mon fils va, je te revois à genoux dans la tombe de mon père, en lui disant il s'en va. Dernier jour à la gare, ton chapelet à la main, en me disant mon fils va.
Place à l'invité. Tendance d'aujourd'hui et de demain accueille Yvon Sana Bangui, le gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale. Face à la presse sous-régionale, le Centrafricain répondait aux questions relatives à la fausse monnaie, à l'injection des liquidités dans les banques, le franc CFA et bien d'autres. C'était lors d'une conférence de presse organisée à l'issue de la récente session du comité de politique monétaire de la BEAC. Eh bien, écoutons Monsieur Yvon Sana Bangui, le gouverneur de la BEAC, au micro des tendances d'aujourd'hui et de demain.
En ce qui concerne la première question qui a été posée par Monsieur Amougou, qui évoque l'embellie dans la sous-région, et notamment la question de monnaie, de fausses monnaies, s'il faut le dire, de faux billets. Mais la première mission statutaire de la Banque centrale, c'est celle d'émettre les billets qui ont cours légal et pouvoir libératoire. Je voudrais dire ici que la BEAC accorde une importance capitale dans la conduite de l'émission monétaire. Et d'ailleurs, elle y met tous les moyens pour sécuriser les signes monétaires. La question qui est posée, probablement avec l'actualité que tout le monde connaît, qui concerne les faux billets en circulation au niveau des frontières Cameroun et Bébéine. Si c'est un rapport, c'est pour dire que la BEAC prend des mesures fortes pour préserver notamment les signes monétaires dans notre zone. C'est pour cela que vous verrez qu'en 2022, nous avons changé de gamme avec une nouvelle gamme de monnaie qui intègre de nouvelles technologies de sécurité. Mais les fausseurs emploient des méthodes rudimentaires de photocopie. Et pour nous, on a besoin, en plus des efforts de la Banque centrale, nous collaborons étroitement avec les autorités de la police pour pouvoir traquer pas seulement les fausseurs, mais il y a aussi les trafiquants de ces billets. Parce qu'il en va notamment de la stabilité monétaire que nous assurons en première ligne de notre mission. La deuxième question a été posée par Monsieur Wandi. Effectivement, le comité de politique monétaire en sa session ordinaire de mars 2024 a donné des orientations par rapport aux mesures qui sont prises pour assurer la stabilité du système monétaire dans notre zone, mais surtout pour garantir une stabilité des prix. Le comité, au sein de la banque, il existe un comité de marché monétaire qui a validé un certain nombre de mesures instruites par le comité de politique monétaire. Dans le premier temps, c'était de retirer les monnaies, donc de ponctionner la liquidité pour faire baisser la masse monétaire en circulation, tout en augmentant les taux directeurs pour garantir la stabilité des prix. Et il faut le rappeler ici que cet exercice est basé sur des simulations avec certaines hypothèses des données macroéconomiques qui ont permis au comité de marché monétaire de reprendre, il y a cela exactement deux semaines, les opérations d'injection de liquidités. Et je puisse également vous assurer que le comité de marché monétaire travaille en ce moment dans l'élaboration d'une nouvelle stratégie qui sera implémentée d'ici peu. Donc, il n'y a pas de contradiction. C'est au regard d'évolution de la liquidité que ces actions sont opérées. Je prends les questions de M. Sandi. La première question concerne la pénurie de pièces. Donc, comme je l'ai évoqué, notre première mission, c'est d'émettre les billets, également les pièces qui ont cours légal. Ce phénomène qui est évoqué à Bangui, la BEAC est totalement consciente. Et d'ailleurs, la bonne nouvelle, j'aurais pu attendre le moment venu pour l'annoncer, puisque nous avons prévu dans le cadre d'un projet de mise en circulation des nouvelles gammes de pièces de monnaie. Et nous allons, d'ici la fin de l'année, officialiser ce projet avec toute une stratégie de communication qui est déjà élaborée, et les journalistes seront conviés au lancement de nouvelles pièces. Alors, l'objectif aujourd'hui, comme je l'ai dit, en tenant compte de la faiblesse de nos économies, nous avons au niveau de la BEIAC un engagement vis-à-vis de la population, vis-à-vis des agents économiques, de renflouer l'économie des pièces. Et c'est un projet qui va s'étendre sur au moins minimum 5 ans, s'il faut 10 ans, pour tenir compte notamment du budget à y consacrer. Donc ça coûte extrêmement cher aujourd'hui, les matières premières, et donc nous avons fait toute une programmation pour pouvoir mettre à la disposition de l'économie des pièces de monnaie de façon régulière sur les 5 prochaines années. Une autre question, c'est celle du financement de développement. Est-ce le rôle de la BEIAC? La BEIAC a des missions statutaires. Parmi, je pourrais les citer ici, émettre les monnaies, conduire la politique de change, définir et conduire la politique monétaire, superviser les systèmes et moyens de paiement. Mais pour y arriver, nous avons besoin que l'économie soit aussi forte, aussi dynamique. Et nous prenons conscience qu'aujourd'hui, peut-être la BEIAC est appelée à sortir de sa zone de confort pour apporter son appui. Nous sommes dans une zone où nos pays sont cités parmi les derniers pour tenir compte de notre fragilité. Mais nous pensons qu'il est temps que tous les acteurs puissent s'associer pour mettre en place des politiques économiques convergentes pour aider notre sous-région à s'en sortir. Alors, côté BEIAC, pour reprendre les besoins en termes d'investissement, nous disposons d'un guichet de financement. Au Cameroun particulièrement, beaucoup de banques viennent en refinancement à la BEIAC pour accompagner des projets structurants. Et nous pensons que dans les mois à venir, nous allons communiquer sur les avantages qu'offre ce guichet aux opérateurs économiques des autres pays de la CEMAC, parce que nous sommes aussi engagés à accompagner les innovations et surtout certaines politiques structurelles que les chefs d'État ont adoptées au travers du programme de réforme de la CEMAC, programme de réforme économique, et qui a également des axes stratégiques devant permettre à tous les États de diversifier leur économie. Il s'agit notamment de la stratégie import-export. Quel rôle la BEIAC va jouer dans la diversification des économies? Nous avons ce guichet, mais nous devons également jouer un rôle actif dans la définition et l'élaboration des politiques économiques de nos pays. Donc nous demandons que la BEAC soit associée, que nos experts soient conviés et associés dans l'élaboration des plans nationaux de développement de nos États. Alors, quels sont, pour finir, les défis à relever? Je pense qu'aujourd'hui, il y a des défis qui sont propres à la BEAC, qui sont liés à ses missions statutaires, mais globalement, notre zone fait face aussi à des défis. Et ces défis sont nombreux. C'est pour cela que je dis, nous sommes disposés à accompagner nos États pour promouvoir un développement économique qui soit sain et efficace. Vous avez posé une question à propos de ma visite de la raffinerie. Je voudrais vous assurer ici que la BEAC joue un rôle aussi important au niveau de la gestion des réserves d'échange des États. J'ai été à la raffinerie. J'ai eu une séance de travail avec les dirigeants de la raffinerie, également la société qui exploite le pétrole. Le constat, c'est que le Tchad qui produit du pétrole et qui raffine sur place importe aussi les produits finis via le Niger. Et sachez que nous réglons la facture de cette importation en dollars, ce qui affecte nos réserves de devises et nous expose à un risque. C'est pour cela qu'il fallait interpeller les responsables de la raffinerie en tenant compte que la matière première est disponible, d'augmenter la production nationale pour satisfaire dans un premier temps les besoins du pays et pourquoi pas exporter aussi dans la sous-région. Donc voilà l'objet de ces échanges qui pour moi est crucial pour préserver nos réserves de change. Et d'ailleurs, je plaide aussi pour que au niveau du Cameroun, la raffinerie Sonara soit très rapidement restaurée et mise en production. C'est un appel que je lance à l'endroit des autorités camerounaises. Aujourd'hui, c'est tous les pays de la CEMAC qui importent de l'extérieur. Ça fragilise notre position extérieure. La tendance baissière des taux directeurs opérée par la Réserve fédérale et la BCE. Seulement la BCE, voilà. Je voudrais ici le rappeler que la banque centrale, chaque banque centrale est indépendante. Et cette indépendance est d'autant renforcée au niveau de la politique monétaire. On ne fait pas du suivisme. Les taux sont obtenus par des modèles macroéconomiques. Pour ce qui concerne la BEAC, comme nous l'avons évoqué ici, L'inflation reste toujours au-dessus de la norme communautaire, qui est de 3%. Aussi, on peut relever que nous sommes confortables au niveau de nos réserves de change avec un peu plus de 4 mois, mais nous sommes toujours exposés à des risques. C'est tenant compte notamment de tous ces facteurs, mais surtout des indicateurs macroéconomiques qui a orienté la décision souveraine, indépendante du comité de politique monétaire à maintenir le taux directeur. Ceci pour garantir la stabilité des prix, mais aussi de soutenir la croissance. La question suivante posée par les journalistes du Gabon. Alors, il y a bien de nouvelles autorités qui sont arrivées au niveau du Gabon. Déjà au niveau du cadre macroéconomique, le Gabon affiche un taux d'inflation de 3% et une croissance aussi de 3%. C'est ça le taux d'inflation. Voilà. Le taux d'inflation du Gabon est au-dessus du seuil communautaire, 2,5%. Voyez-vous que les instruments de politique monétaire que nous employons pour réguler la masse monétaire, maintenir les prix, trouvent également des apports au niveau des politiques budgétaires des États et aussi des politiques commerciales. Au niveau du Gabon, pour votre information, des initiatives ont été prises, notamment pour contrer l'inflation au moment où tous les autres États faisaient face à des pressions. Le gouvernement, les nouvelles autorités ont maintenu, voire même baissé le prix de gaz domestique. Le prix du carburant a été maintenu. Et les contrôles de prix aussi ont été effectués. Donc, toutes ces initiatives combinées ont permis de garantir une stabilité des prix au niveau du Gabon et notamment la maîtrise de l'inflation. Mais je pourrais demander aux équipes de mettre à votre disposition le rapport de la programmation monétaire et également le rapport de conjoncture pour ce qui concerne le pays Gabon. Et vous trouverez toutes les informations. Mais je puisse également porter la question de dette qui aujourd'hui interpelle et interpelle aussi les autorités à plus haut niveau. Et nous sachons pertinemment qu'il y a ce grand besoin aussi de financement des infrastructures. Mais il faut notamment regarder les opportunités de toutes les démarches à entreprendre dans la recherche d'endettement et aussi la soutenabilité budgétaire. Alors, la dernière question de France CFA. France CFA de l'Afrique centrale versus franc CFA de l'Afrique de l'Ouest. Je pense que c'est un débat d'actualité. Tout ce que je pourrais dire, c'est que les chefs d'État ont instruit les institutions spécialisées, notamment la BEAC, qui a travaillé avec la commission de la CEMAC depuis 2019. Je me réserve de donner la teneur des rapports d'étape qui restent notamment de la prérogative et de la primeur des chefs d'État. Je vous invite seulement à garder votre patience. Le moment venu, les orientations stratégiques qui seront portées par nos chefs d'État seront certainement rendues publiques. Sur ce, je crois avoir répondu à toutes les questions.
C'est sur ces mots de notre invité que nous mettons la clé sous le paillasson. Tendance d'aujourd'hui et de demain, c'était trois grands moments, à savoir les grands tableaux, dans lesquels nous avons parlé du principal vecteur de l'inflation dans la zone CEMAC par la BEAC. Par la suite, nous sommes allés au Gabon, où selon le FMI, la situation économique est alarmante. En troisième partie, nous avons fait une immersion dans les marchés au Safou, dans lesquels les prunes sont de préférence. Et toujours dans les grandes surfaces, nous avons fait une immersion dans le marché de Mokolo à Yaoundé, où les prunes sont de plus en plus prisées. En troisième partie, nous avons eu un invité sur notre fauteuil au nom de Monsieur Yvon Sanabangui, gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, qui était face à la presse sous-régional le 24 juin dernier. Tendance d'aujourd'hui et de demain, c'était Jean-René Meva Amougo,
Joël Effa
et Josué Nabal à la technique. Surtout, restez connectés sur toutes nos différentes plateformes en ligne, notamment notre site internet au www.radiointégration.com et sur toutes nos plateformes, notamment Instagram et Facebook, Radio Intégration. Au plaisir de vous retrouver dans les prochaines éditions. D'ici là, portez-vous bien.
Prenez soin de vous, prenez soin des autres. À la prochaine édition.
Inch'Allah.
Inch'Allah. Tendance d'aujourd'hui et de demain.
Tendance d'aujourd'hui et de demain, le regard de Radio Intégration sur les dimensions spatio-temporelles auxquelles s'attachent les réalités économiques d'Afrique centrale. Tendance d'aujourd'hui et de demain.
Une réflexion sur la nature et la portée des interactions, les conditions de leur efficacité, ainsi que les défis qu'elles soulèvent dans la sous-région.
Tendance d'aujourd'hui et de demain.
C'est votre émission sur les prévisions, planification des ressources telles qu'élaborées par les grands et petits acteurs. 52 minutes pour exposer et comprendre les environnements où s'opèrent les choix décisionnels qui engagent l'Afrique centrale.
Tendance d'aujourd'hui et de demain, c'est sur Radio Intégration.